Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, sommaire de cette édition du mardi 16 mai 2023. Au Sénégal, le procès pour viol contre l'opposant Ousmane Sonko a été renvoyé à la semaine prochaine. Hier, il y a eu 3 morts.
Nous n'avons absolument rien à reprocher. Parce que la partie civile est prête. Parce que Hagi Sarr, comme vous l'avez vu aujourd'hui, est prête à en découdre avec Ousmane Sonko devant la chambre criminelle.
L'avocat de Hagi Sarr, la masseuse qui accuse l'opposant de viol. Au Soudan, les attaques aériennes et les tirs d'artillerie continuent à Khartoum. Kiev et Moscou prêts à rencontrer une délégation africaine pour discuter d'un plan de paix, selon le président sud-africain. Ici aux États-Unis, une nouvelle discussion aujourd'hui sur un relèvement du plafond de la dette pour éviter un défaut de paiement. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Direction le Sénégal, le procès pour viol contre l'opposant Ousmane Sonko a été renvoyé au 23 mai après s'être brièvement ouvert ce matin à Dakar en l'absence du prévenu. La veille, des affrontements entre de jeunes partisans de M. Sonko et les forces de sécurité et des actes de saccage ont eu lieu à Ziguinchor, dans le sud, fief de M. Sonko et dans la capitale et sa banlieue, Dakar. Les autorités ont fait état de 3 morts sans les lier au 1. Le point avec notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay.
Tout de blanc vêtu et entouré de ses avocats, la plaignante Hagi Sarr s'est présentée très tôt au tribunal. Devant des centaines de journalistes, Maître Ella Diouf, avocat de la partie civile, affirme que sa cliente est prête à faire face.
Nous n'avons absolument rien à reprocher. Parce que la partie civile est prête. Parce que Hagi Sarr, comme vous l'avez vu aujourd'hui, est prête à en découdre avec Ousmane Sonko devant la chambre criminelle.
De son côté, Maître Cheikh Khouresiba, avocat de l'opposant Ousmane Sonko, estime que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour que son client se présente devant la justice.
La position de Ousmane Sonko est claire parce qu'il a parlé de désobéissance et de résistance parce que les autorités étatiques doivent faire le nécessaire pour que les droits des citoyens soient respectés.
En attendant de savoir si Ousmane Sonko va changer d'avis et se présenter devant la justice, son procès pour le viol présumé d'une masseuse se tiendra finalement le mardi 23 mai prochain en audience spéciale devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. Sédina Bagui pour VOA Afrique, Dakar.
Le Burkina Faso a exprimé sa solidarité avec l'armée malienne accusée par l'ONU d'avoir exécuté en mars 2022 au moins 500 personnes lors d'une opération anti-djihadiste à Moura dans le centre du Mali. La semaine dernière, l'ONU a affirmé avoir des motifs raisonnables de croire qu'au moins 500 personnes ont été exécutées par les forces armées maliennes et les personnels militaires étrangers en mars 2022 à Moura. Les autorités de Bamako ont dénoncé un récit fictif assurant qu'il s'agissait d'une opération anti-djihadiste dans laquelle aucun ressortissant civil n'a été tué. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Les frappes aériennes et les tirs d'artillerie s'intensifient à Khartoum. L'armée cherche à défendre des bases importantes contre les paramilitaires qu'elle combat depuis plus d'un mois. Alexandrine Ollognon.
Explosions et affrontements ont été entendus dans le sud de la capitale. Les paramilitaires ont attaqué des bases militaires importantes dans le nord d'Omdurman et le sud de Khartoum, dans une tentative apparente d'empêcher l'armée de déployer des armes lourdes et des avions de chasse, selon des habitants et des témoins. L'armée tente de couper les lignes de ravitaillement des forces de soutien rapide depuis l'extérieur de la capitale et de sécuriser les sites stratégiques comme l'aéroport de Khartoum et la grande raffinerie de pétrole Al-Jaili à Bahiri. Les combats se sont intensifiés à Khartoum et à Djenéina, capitale du Darfour occidental. Il y a plus d'une semaine, les deux parties ont entamé des pourparlers à Jeddah sous l'égide de l'Arabie saoudite et des États-Unis. Ces négociations ont débouché sur une déclaration de principe concernant l'accès à l'aide humanitaire et la protection des civils. Mais les mécanismes de mise en place de couloirs humanitaires et l'acceptation d'un cessez-le-feu se font toujours attendre. Toutes les trêves annoncées depuis le début de cette guerre n'ont jamais été respectées.
En Tunisie, le mouvement islamo-conservateur Ennahda a condamné aujourd'hui la peine d'un an de prison infligée à son chef, Rached Ghannouchi, la qualifiant de verdict politique injuste. Monsieur Ghannouchi, 81 ans, principal opposant au président Kais Saied, est incarcéré depuis le 17 avril et il a été condamné hier à un an de prison pour apologie du terrorisme. Par ailleurs, un haut responsable libyen, Khaled El Mekri, président du Haut Conseil d'État, a regretté aujourd'hui le retour de la dictature en Tunisie, en exprimant sa solidarité avec l'opposant tunisien. La Chambre des députés siégeant dans l'est de la Libye a suspendu ce mardi Fatih Bachaga, chef de l'exécutif parallèle qu'elle a nommé en 2021 pour tenter de déloger le gouvernement en place à Tripoli. Les députés ont chargé le ministre des Finances, Oussama Ahmad, de gérer les affaires de la primature dans l'attente des conclusions de l'enquête ouverte, a annoncé le porte-parole de la Chambre des députés à l'issue d'une réunion à huis clos tenue à Benghazi. Les raisons de cette suspension n'étaient pas connues dans l'immédiat. Un bébé est mort et 23 autres personnes sont portées disparues après le naufrage d'un bateau entré en collision avec un hippopotame sur une rivière dans le sud du Malawi. Le canoë transportait 37 personnes d'une rive à l'autre de la rivière Shire lorsqu'il a chaviré lundi matin, selon une porte-parole de la police du district de Nzanje. 13 personnes ont été sauvées des flots impétueux par des habitants et 23 restaient portées disparues ce mardi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une mission africaine de paix partira dès que possible à Kiev et à Moscou pour tenter de trouver une solution pacifique à la guerre en Ukraine. C'est ce qu'a annoncé le président sud-africain Cyril Ramaphosa, précisant que cette mission inclut son pays, le Sénégal, la Zambie, le Congo, l'Ouganda et l'Égypte. Les précisions avec Yacouba Ouedraogo.
Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont accepté de recevoir la mission et les chefs d'État africains à Moscou et à Kiev, a déclaré Cyril Ramaphosa. Il dit s'être entretenu avec ses homologues russes et ukrainiens lors d'appels téléphoniques séparés. Les détails et le calendrier de la mission n'ont pas été précisés. Le chef d'État sud-africain s'était indigné que Pretoria subisse des pressions extraordinaires, selon lui, pour choisir son camp après des récentes tensions avec Washington autour de la question russe. Il a affirmé que l'Afrique du Sud ne se laissera pas entraîner dans une compétition entre puissances mondiales. En février, le pays a accueilli des manœuvres militaires conjointes avec la Russie et la Chine au large de Durban. L'ambassadeur américain à Pretoria s'est indigné la semaine dernière après qu'un cargo russe a accosté en décembre près du Cap, l'accusant d'être reparti vers la Russie chargé d'armes et de munitions. Le gouvernement sud-africain a déclaré qu'il n'existe aucune trace de vente d'armes à la Russie sur la période en question. M. Ramaphosa a annoncé l'ouverture d'une enquête.
L'Ukraine a revendiqué aujourd'hui des gains territoriaux face aux Russes près de la ville dévastée de Bakhmout, épicentre des combats depuis des mois, après avoir repoussé pendant la nuit un déluge de missiles russes et avant la visite d'un émissaire chinois à Kiev. La vice-ministre ukrainienne de la Défense a fait savoir que les troupes russes continuent toutefois d'avancer au sein de la ville même où elles assiègent les dernières poches de résistance ukrainienne dans l'ouest, détruisant complètement la ville à l'aide de l'artillerie. Toujours en Ukraine, le président de la Cour suprême Vsevolod Kniaziev a été arrêté et placé en détention dans une affaire de corruption portant sur 2,7 millions de dollars. C'est la plus grosse affaire touchant la branche judiciaire de l'État, a déclaré le chef du bureau anticorruption national. Le président Joe Biden rencontre cet après-midi à la Maison-Blanche les parlementaires démocrates et républicains. Ils tentent de s'entendre sur le plafond de la dette pour éviter le défaut de paiement pour les États-Unis. Nani Talani.
Le président américain va recevoir à nouveau à la Maison-Blanche les quatre chefs de file du Parti démocrate et du Parti républicain au Congrès. L'invité le plus important sera, comme lors de la dernière rencontre le 9 mai, Kevin McCarthy, chef de la Chambre des représentants. C'est de lui que dépend en grande partie l'issue des discussions. Il a déclaré hier soir qu'il n'y a pas de progrès et qu'il faudra faire quelque chose d'ici la fin de la semaine, alors que les équipes des deux camps négocient depuis une semaine. Joe Biden a pour sa part encore martelé sur Twitter qu'un défaut de paiement n'était pas une option. Si les députés républicains nous poussent au défaut, 8 millions d'emplois pourraient être perdus aux États-Unis, a-t-il averti, renvoyant la responsabilité sur l'autre camp. Le pays ressent déjà les effets concrets de la crise, alerte la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, citant l'augmentation du coût de l'emprunt. Elle avait averti qu'après le 1er juin, le pays risque le défaut de paiement avec toutes ses conséquences sur l'économie nationale.
L'opposition turque est repartie en campagne aujourd'hui après les résultats décevants de son candidat à la présidentielle, Kemal Kılıçdaroğlu, qui tente de rallier le vote des jeunes contre le président sortant Recep Tayyip Erdogan, arrivé en tête du premier tour. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Le ministère congolais de l'économie forestière et l'entreprise Sequoia Plantation ont signé à Brazzaville un contrat de bail de 30 ans pour transformer et replanter un massif forestier de 35 961 hectares à Louvouiti, Inda, Diosso et Kisoko, dont le Kwilu et Pointe-Noire. Le preneur va payer un loyer annuel et une autre redevance forfaitaire annuelle destinée au fonds de développement local. Sequoia va travailler aussi avec les communautés riveraines dans la fibre, l'alimentation et le biocarburant, selon les dépêches de Brazzaville. Au Nigeria, le coût du nettoyage de la pollution causée par des décennies d'exploitation pétrolière dans l'état de Bayelsa, dans le sud-est, est estimé à plus de 11 milliards d'euros, selon un rapport d'enquête publié ce mardi. Ces fonds serviront à assainir les sols et l'eau potable, réduire les risques sanitaires pour les populations et restaurer les forêts de mangroves. La commission appelle Shell et Eni, qui y exploitent, à payer une partie de cette somme. Pour terminer, les exportations des marchandises à Madagascar ont enregistré un recul de 13,4% au premier trimestre à cause du repli des principaux produits tels que la vanille, le girofle, le cobalt et les produits des entreprises franches, a déclaré ce mardi la Banque centrale du pays.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Ligue des champions ce soir en Europe.
Oui, l'Inter Milan du Camerounais André Onana reçoit son voisin de l'AC Milan avec 2 buts d'avance. L'Inter a confirmé sa forme en battant Sassuolo 4-2 ce week-end, alors que Milan pliait chez un mal classé La Spezia 2-0. Si les deux équipes ont ménagé leurs attaquants en Serie A, les rossoneri sont privés d'Ismaël Benacer qui s'est blessé à l'aller et leur bulldozer offensif Leao qui a beaucoup manqué à l'aller reste incertain. Dans l'autre demi-finale retour demain mercredi, Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez avait été sorti à ce même stade de la compétition l'année dernière. Comme l'an passé, City a pris un avantage à l'aller en ramenant un nul de Bernabeu, 1-0. Il faudra confirmer à domicile pour retourner en finale et poursuivre le rêve des propriétaires émiratis de remporter enfin la Ligue des Champions après l'échec contre Chelsea en 2021.
À Martiaux Mix à présent, Francis Ngannou s'engage avec la Professional Fighters League.
Le Camerounais, ancien champion poids lourd de l'UFC, s'est engagé avec la PFL, une organisation américaine concurrente, Bagassi Koura.
Selon la Professional Fighters League, ce nouveau contrat permet à Francis Ngannou de combattre en boxe anglaise comme il le souhaitait et en arts martiaux mixtes, sa discipline de prédilection. Il y a 4 mois, Ngannou, alors détenteur de la ceinture poids lourd, a quitté avec fracas l'UFC, la plus puissante ligue de MMA, sur fond de désaccords sur sa rémunération et celle des autres combattants de l'organisation. Avec la PFL, Ngannou va participer à un combat de boxe anglaise en 2023 et reviendra combattre en MMA au sein de sa nouvelle ligue en 2024. Il devient aussi membre du conseil consultatif de l'organisation pour représenter les intérêts des combattants et président de sa branche Afrique avec pour mission de détecter de nouveaux combattants et d'organiser des événements en 2025 sur le continent. Ni la durée du contrat, ni le montant n'ont été révélés par Ngannou ou par la PFL qui s'est pourtant vanté sur son compte Instagram d'avoir conclu, je cite, la signature la plus chère et la plus importante de l'histoire du MMA.
Basketball avec les finales de conférence qui débutent ce soir en NBA.
3 ans après leur finale de conférence dans la bulle anti-Covid-19 d'Orlando, les Lakers de LeBron James défient les Nuggets de Nikola Jokic. Le Heat de Jimmy Butler affronte les Celtics de Jason Tatum demain mercredi. Ces retrouvailles n'étaient pas forcément attendues il y a un mois à l'entame de ces playoffs, car la saison régulière écoulée n'avait pas été une partie de plaisir pour Los Angeles et Miami. Tous deux ayant dû passer par les barrages pour se qualifier, Et voilà, ces deux équipes transfigurées à désormais 4 victoires chacune de s'offrir un remake de la finale de 2020 qui avait alors souri aux Californiens. Au même titre que leurs grands rivaux historiques des Celtics, les Lakers sont donc toujours en lice pour un 18e sacre record.
Page de sport VO Afrique signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Dans plusieurs villes du Sénégal, des affrontements ont eu lieu hier et aujourd'hui, causant la mort de 3 personnes et plusieurs blessés, dont certains dans un état grave. Pour beaucoup de Sénégalais, cette situation pouvait être évitée. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Des barricades sur les routes principales, des pneus brûlés, des commerces saccagés et des pertes en vie humaine, des faits déplorables pour Mor Diarra qui estime que l'opposant Ousmane Sonko doit aller répondre à la justice.
Les événements qui se sont déroulés hier sont regrettables, des bus Dakar Demdik incendiés pour des faits aussi légers. Il ne s'agit pas d'emprisonner Ousmane Sonko, mais juste un procès doit avoir lieu et c'est après ce procès seulement qu'on saura si le gouvernement veut liquider Ousmane Sonko. C'est mieux que le leader de PASTEF défère à la convocation de la justice parce qu'on l'a accusé. Et je crois qu'en tant que citoyen qui prétend diriger le pays, il a l'obligation de répondre à la justice.
Pour Jean Yoro Diop, le système judiciaire ne garantit pas un procès impartial à l'opposant Ousmane Sonko.
Toujours un système judiciaire arbitraire. Parce que je ne vois pas comment un pays où l'on dit qu'on est une démocratie. Mais on est à une démocratie que de mots. Parce que l'appareil judiciaire, entre guillemets, c'est le président Macky Sall qui le dirige. Je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qu'on a accusé de viol pendant presque 3 ans. 3 ans. Tu ne peux pas prouver que ce gars-là, il est coupable.
De son côté, Pape Diagne, marchand ambulant, appelle toutes les parties au calme pour le bien du pays.
On doit cesser cette mascarade pour faire revenir un climat de paix dans ce pays. On est dans un pays de démocratie et l'on doit cesser cet acharnement sur la personne d'Ousmane Sonko. Imaginez, à cause de cette affaire, on ne peut même pas vaquer à nos occupations et le renvoi du dossier va créer d'autres tensions. C'est vraiment dommage.
Les Sénégalais sont divisés sur la situation politique actuelle. Cependant, tous s'accordent à dire que les hommes politiques de tous bords doivent faire le nécessaire pour préserver la paix et la stabilité du pays. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le gouvernement malien promet de mener une enquête sur le rapport dans lequel l'ONU dit avoir des motifs raisonnables de croire qu'au moins 500 personnes auraient été exécutées par les forces armées maliennes et les personnels militaires étrangers en mars 2022 à Moura, dans la région de Mopti, dans le centre du Mali. Les autorités de Bamako dénoncent un récit fictif assurant qu'il s'agissait d'une opération anti-djihadiste dans laquelle aucun ressortissant civil n'a été tué. Pour une analyse, Nani Talani a joint Sekou Tangara, directeur d'Africable à Bamako.
Manifestement, on est dans un dialogue de sourds entre, d'une part, le gouvernement du Mali et l'ONU, d'autre part, parce que Moura intervient dans un contexte où Bamako avait conditionné les mouvements des éléments de la MINUSMA à son autorisation. Et on verra par la suite que c'est ce refus-là qui a pu ou dû constituer un peu l'insuffisance de ce rapport-là. Pour cela, aux yeux de Bamako, c'est beaucoup plus une commission de supposition de faits qui a été mise en place plutôt qu'une commission d'établissement des faits. Donc moi, je pense qu'un an après, le rapport est beaucoup plus le fruit de dissensions entre le gouvernement du Mali et l'ONU.
Qu'en est-il des enquêtes de Bamako?
Bamako avait introduit des enquêtes. Il y avait, si vous vous rappelez bien, le 6 avril, il y a un procureur militaire qui s'était rendu à Moura. Le 9 avril, il y avait même eu un transport judiciaire. Et à un moment, le pôle antiterroriste de Mopti s'était même saisi du dossier. Et pour cette affaire de Moura, comme bien d'autres, hein, c'est bien le reproche qu'on peut mener à nos autorités judiciaires. Et la plupart du temps, leur réponse, c'est que le temps de la justice n'est pas le temps de la presse, n'est pas le temps des citoyens. Donc, de ce point de vue-là, également, on peut peut-être parler d'insuffisance de nos appareils judiciaires. Les enquêtes sont ouvertes. Mais la plupart du temps, on a du mal à avoir les issues, les résultats, ou souvent même, il n'y a même pas de résultats, c'est fermé, c'est clos, avant qu'on ne puisse savoir ce qui s'est passé.
Le gouvernement malien promet de mener une contre-enquête. Que peut-il sortir de cette contre-enquête?
Personnellement, je pense qu'il ne faudrait rien attendre de cette contre-enquête, parce que les positions sont déjà tranché. Hein. Le gouvernement pense qu'à un moment, il avait demandé au niveau des Nations Unies qu'il soit ouverte une enquête par rapport à des preuves qu'il détiendrait contre un pays, la France par exemple, des preuves évidentes, même par rapport à Moura, parce que quand vous écoutez le gouvernement, il dit que c'est à partir de Moura, à partir de l'attaque qui était en train d'être planifiée par les terroristes à Moura, que lui, gouvernement du Mali, s'est rendu compte de la collision de certaines puissances occidentales, en l'occurrence la France, avec les terroristes. Et si l'on fait ce rappel-là, le gouvernement pense que les Nations Unies devaient ouvrir une enquête pour confronter ces preuves avec l'établissement ou non de collision avec la France. Et quand on garde ce postulat-là, on se dit que la contre-enquête du gouvernement, il ne va rien en résulter, parce que le gouvernement est sur une position figée.
Sékou Tangara, directeur d'Africa Able, joint dans la capitale malienne.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Hier à Genève, en Suisse, les gouvernements de la République démocratique du Congo, du Rwanda et le Haut Commissariat pour les réfugiés ont convenu de la mise en œuvre d'un plan de rapatriement volontaire des réfugiés dans leur pays d'origine. Dans la province du Nord Kivu, des avis divergent sur ces nouvelles ententes entre la RDC et le Rwanda. Reportage de notre correspondant à Goma, Zanem Neti Zaidi.
Selon Kigali, quelques 70 000 réfugiés congolais vivant les sols rwandais doivent être rapatriés. À Goma, il y a aussi plusieurs réfugiés rwandais qui attendent de rentrer chez eux, explique Keren Umutoni, jeune fille née avec le statut de réfugié.
Moi, j'ai 22 ans aujourd'hui. Je suis née et j'ai grandi au Congo en tant que réfugiée. Mes parents nous rappellent toujours que nous sommes rwandais. Et nous espérons qu'un jour nous retournerons chez nous.
Cette jeune fille dit ne pas être prête de retourner au Rwanda en cette période, malgré la volonté manifestée par Kigali de les rapatrier. Ses raisons, comme pour toute sa famille, sont d'abord politiques.
Au Rwanda, nos parents sont considérés comme des rebelles, parce qu'ils sont des Hutus. C'est pourquoi nous attendons tous les jours, nous y rentrerons en toute sécurité.
À l'issue de cette réunion à Genève entre les Rwanda, la RDC et les HCR, un communiqué a été signé dans lequel les deux pays s'engagent à respecter les droits au retour volontaire et sécurisé des réfugiés, mais la méfiance envers les autorités rwandaises est vivace chez beaucoup de Congolais. Roger Mouiniré, acteur de la société civile.
Si le gouvernement de Kagame peut prendre cette décision, c'est quelque part une façon de chercher comment les encadrer dans le Nord Kivu et de les donner la terre telle que Kagame est en train de dire qu'il y a une terre pour le Rwanda qui est au niveau de la RDC, chose qui n'est pas vraiment vérifiable parce que l'histoire n'est pas vraiment claire à ce sujet. Et il fallait que les HCR puissent préparer comment ils vont recevoir ces réfugiés au niveau de notre pays, mais aussi ceux qui sont ici au Congo, qu'eux aussi puissent rentrer au niveau du Rwanda.
Pour Maître Moïse Kakoulé, la question des rapatriements des réfugiés n'est pas opportune en cette période où la paix demeure un casse-tête dans les régions qui sont censées les accueillir.
Moi, je pense que ce n'est pas le moment de parler des cas des réfugiés, de faire retourner les réfugiés Y. Effectivement, on ne peut pas demeurer réfugiés toute la vie. On doit retourner dans les milieux naturels maintenant. La question que nous nous posons, est-ce que ces milieux naturels-là de nos réfugiés, les conditions de vie sont encore garanties? Est-ce qu'il y a la paix qui est revenue de l'autre côté? Les réfugiés rwandais qui sont au Congo, ils étaient venus en RDC, c'était l'effet de la guerre. Et moi, je peux conseiller aux deux pays de s'asseoir sur cette question pour ne pas susciter des tensions davantage et créer des morts de plus.
La RDC et le Rwanda ont fixé un autre rendez-vous à Nairobi dans un mois pour définir les modalités pratiques et relancer les processus de facilitation du rapatriement volontaire de réfugiés. Zanem Neti Zaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Bukavu sur 97.4 FM.
Au Gabon, Port-Gentil, la capitale économique, traverse des moments difficiles. Plus de 2 ans après la double crise pétrolière et sanitaire, la ville ouvrière de plus de 130 000 habitants, jadis prospère, porte désormais les stigmates du chômage, de la précarité et de leur cortège d'effets pervers, dont l'insécurité. Les témoignages sont glaçants dans ce reportage de notre correspondant sur place, Ismaël Obiang-Nzé.
Agression à l'arme blanche, viol et vol à la tire, autant d'actes de grand banditisme devenus monnaie courante à Port-Gentil. Les braquages les plus spectaculaires ont très souvent lieu dans la nuit ou au petit matin. Ulrich revient sur une attaque de bandits contre un bar du quartier Ngadi la semaine dernière.
Ils sont arrivés au bar, ils ont braqué tous les clients qui étaient, ils ont braqué la gérante, ils ont braqué tous les riverains. Ils étaient au moins 40 armés.
Digne des films western, ces scènes quotidiennes jettent un froid dans le dos de Lucie. Cet employé du pétrole connaît déjà le mode opératoire des délinquants de la cité pétrolière du Gabon.
Ils attendent surtout qu'il y ait un petit embouteillage. Et là, s'ils réussissent à ouvrir une portière, ils prennent le sac et s'en vont.
Des actes qui sont loin d'être des cas isolés, car en janvier dernier, 38 jeunes bandits de grand chemin en possession de drogue, des machettes et tournevis avaient été arrêtés au cours d'une rafle policière à Port-Gentil. Une opération d'envergure qui faisait suite à de nombreuses plaintes des populations en danger. Pour Bertrand Yombi, habitant du quartier La Balise, la capitale économique du Gabon n'est pas encore sortie de l'ornière.
Les mêmes braqueurs qui étaient braqués aujourd'hui, le lendemain matin, même s'il est à la prison, vous le trouvez encore dehors. Il y a un recrutement au niveau de la gendarmerie, que ce soit à la police, à la gendarmerie. Tous les militaires et les gendarmes se retrouvent d'un seul côté à Libreville. Tu dois appeler la police judiciaire que j'ai été braqué à la maison. Bon, mais on n'a pas de carburant, il faut arriver, il faut venir.
Généralement issus des secteurs malfamés de Port-Gentil, notamment les quartiers Chic, Banco ou encore Matanda, ces braqueurs sont de l'avis du sociologue Georges Moussavou, les produits d'une société en déliquescence.
Ils développent des réflexes de survie. Parce que quelqu'un qui a de quoi manger, qui a de quoi vivre, qu'est-ce qui le pousserait à aller voler? Il faut bien des actions policières parce que bon, il faut sécuriser aussi les victimes. Il faut, au-delà de ces actions, il faut comprendre quelles sont les causes. Et c'est lorsque on aura compris les causes qu'on pourra agir sur ces causes pour essayer d'atténuer ces situations.
Ces dernières années, plusieurs sociétés de sous-traitance pétrolière de Port-Gentil ont dû mettre la clé sous le paillasson. Difficile alors de ne pas établir un lien entre la misère d'une bonne partie des ménages et la délinquance juvénile, selon plusieurs observateurs. Ismaël Obianzé, de retour de Port-Gentil pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Georges-Jonas Agneau. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.